Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 15 Bahman 1401 du calendrier iranien, 4 février 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite notre commentaire politique. Téhéran et Caracas donnent un coup de pouce à leur coopération. Téhéran et Caracas vont développer leur coopération. L'Iran donne un avertissement à Paris. Les États-Unis et leurs alliés européens accusent l'Iran d'incohérence concernant ses obligations en vertu du TMP. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Téhéran affirme qu'un accord de coopération globale entre l'Iran et le Venezuela est un tournant dans les relations des deux pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, en visite à Caracas, a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le président vénézuélien Nicolas Maduro. Amir Abdullahian a qualifié pour sa part d'importante la mise en œuvre rapide des accords conclus entre les deux pays, qui s'inscrit selon lui dans le sens du renforcement de la coopération de part et d'autre. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. L'appareil diplomatique de la République islamique d'Iran a réagi aux récentes déclarations récurrentes et non constructives prononcées par le président français contre l'Iran lors de sa rencontre avec le premier ministre israélien. En réponse aux positions récurrentes et non constructive de certains responsables français et aux récentes déclarations anti-iraniennes du président Macron lors de sa rencontre avec le premier ministre israélien, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré « La rencontre avec le premier ministre du régime sioniste, que le monde considère comme un symbole du terrorisme organisé, de la violence, du meurtre et de l'errance des femmes et des enfants opprimés en Asie occidentale, y compris en Palestine, mérite d'être condamné. Le président français dénonce les activités nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran, alors qu'il semble avoir oublié que le régime sioniste, doté de dizaines d'ogives nucléaires, ne se résigne à aucune supervision internationale et au vu d'un bilan noir contenant ses actes d'usurpation et d'agression militaire, il est devenu le plus grand danger pour la paix et la sécurité régionale et internationale, a déclaré le haut diplomate iranien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté, au lieu d'exprimer de fausses inquiétudes au sujet des activités nucléaires pacifiques de l'Iran qui sont menées entièrement sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la partie française devrait informer le monde de la manière dont le terrorisme d'État du régime sioniste a récupéré ses armes nucléaires. Après avoir rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a réitéré les allégations contre le programme nucléaire iranien. Les États-Unis et leurs alliés européens ont accusé l'Iran d'incohérence concernant ses obligations en vertu du traité de non-prolifération nucléaire. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont fait ce commentaire dans une déclaration commune citant le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur l'Iran, déclarant que les mesures de l'Iran vont à l'encontre des exigences de garantie nucléaire du TNP. Il faisait référence à un rapport de mercredi qui critiquait l'Iran pour avoir apporté une modification non déclarée à certaines de ses machines avancées d'enrichissement d'uranium. La République islamique d'Iran a rejeté le rapport sur les opérations dans son site nucléaire de Fordow. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a déclaré que le rapport était bien basé sur une erreur commise par un inspecteur de l'AIEA lors d'une inspection inopinée de la centrale de Fordow le mois dernier. Nous avons immédiatement fourni l'explication à l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'inspecteur de l'agence a découvert qu'il avait fait une erreur, a ajouté M. Eslami. Au moins 13 Palestiniens ont été blessés après que les forces militaires israéliennes ont pris d'assaut un camp de réfugiés en Cisjordanie, au milieu des craintes que la situation dans les territoires occupés n'implose dans un proche avenir. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que les troupes israéliennes ont fait irruption dans le camp d'Akbat Jabr, situé au sud-ouest d'Arira, dans la vallée du Jourdain, samedi matin 4 février, après un siège d'une semaine. Des sources locales ajoutent que le bruit des explosions et des échanges de coups de feu ont été entendus plus tard dans le camp de réfugiés. Des témoins ont déclaré que des soldats israéliens avaient ouvert le feu sur des Palestiniens dans le camp et tiré des grenades lacrymogènes ainsi que des grenades assourdissantes, tout en appelant les habitants d'une partie du camp à sortir de chez eux, selon le rapport. Et enfin, Moscou a déclaré que Washington avait effectivement encouragé les attaques ukrainiennes sur le territoire russe. La décision de fournir à l'Ukraine des missiles à plus longue portée marque une escalade délibérée des États-Unis, a déclaré l'ambassadeur de Russie à Washington, avertissant que Moscou ne tolère pas les frappes sur les villes russes. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le Venezuela et la République islamique d'Iran sont déterminés à renforcer leur coopération dans divers domaines et mettre en œuvre des accords conclus entre les deux pays, appelant à une vigilance accrue face aux pressions étrangères dirigées par les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a rencontré à Caracas le président du Venezuela, Nicolas Maduro, lors de sa visite officielle dans le pays sud-américain. Le président vénézuélien a exhorté la partie iranienne à profiter de la nouvelle année 2023 pour donner suite avec force au plan de coopération. En allusion aux expériences des deux pays face aux défis communs, le président Maduro a insisté sur la nécessité de renforcer et de consolider la coopération bilatérale. C'est notre voie, la voie de l'union parfaite entre l'Iran et le Venezuela, a-t-il souligné, qualifiant les deux pays de courageux et anti-impérialistes. Amir Abdullahian a qualifié pour sa part d'importante la mise en œuvre rapide des accords conclus entre les deux pays qui s'inscrit selon lui dans le sens du renforcement des coopérations de part et d'autre. Amir Abdullahian et Maduro ont souligné l'accélération de la mise en œuvre des projets entre les deux pays ainsi que la vigilance dans la défense des intérêts nationaux contre les pressions extérieures. La République islamique d'Iran et le Venezuela ont approfondi leurs relations politiques, économiques et commerciales en juin dernier avec la visite officielle du président Maduro à Téhéran, où il a signé avec son homologue iranien Ebrahim Raisi un plan de coopération stratégique pour 20 ans appliqué dans différents domaines. La République islamique d'Iran prône le renforcement des liens entre Téhéran et l'Amérique latine comme un moyen de contrecarrer les complots de l'impérialisme américain contre les pays indépendants. L'Iran et le Venezuela réaffirment aussi leurs liens stratégiques sur le plan de l'énergie. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdullahian, a également rencontré vendredi le ministre vénézuélien du pétrole, Tarek Al-Aissami. Lors de cette rencontre, le ministre iranien a mis l'accent sur le développement et le renforcement de la coopération avec le Venezuela, en particulier la mise en œuvre des accords, et a exigé la suppression des obstacles et des défis et l'accélération du processus de coopération. En allusion aux nombreuses expériences de l'Iran dans le domaine de l'énergie et de la technologie, le ministre vénézuélien du pétrole a souhaité en tirer le meilleur pour son pays afin de renforcer la position des deux pays sur l'échiquier international. Les deux parties ont également présenté le document stratégique signé lors de la visite du président Maduro à Téhéran en tant que feuille de route pour les relations irano-vénézuéliennes. Le chef de la diplomatie iranienne a aussi tenu une réunion avec son homologue vénézuélien, Ivan Gil, au cours de laquelle il a souligné la détermination de la République islamique d'Iran à renforcer les relations avec le Venezuela dans tous les domaines et sans aucune restriction. En outre, il a souligné la nécessité de mettre en œuvre et d'opérationnaliser les accords conclus entre les deux pays afin de neutraliser les sanctions injustes contre leur peuple. À cet égard, il a exprimé sa satisfaction face aux efforts qui ont conduit à la mise en œuvre de certains plans et projets souhaités par les deux nations. Dans une autre partie de ses propos, il a fait allusion à la guerre en Ukraine et a considéré les événements qui y sont liés comme le signe d'une simple exploitation des droits de l'homme par certaines puissances et de leur instrumentalisation contre d'autres pays. À son tour, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a souligné les relations entre Caracas et Téhéran en tant que deux partenaires importants sur la scène bilatérale et internationale, puis a appelé à consolider les liens. Les deux hommes ont également abordé l'échange de délégations de haut niveau entre les deux pays.
Bienvenue dans nos studios de Presse TV, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Dans notre débat d'aujourd'hui, nous allons parler des manifestations et de la mobilisation importante qu'on a pu voir en France, notamment à cause de la réforme des retraites. Pour ce faire, nous avons préparé donc un reportage et par la suite, nous ferons venir nos invités. Je vous propose donc notre reportage.
La majorité des Français sont opposés à l'augmentation de 2 ans de l'âge de la retraite, qu'Emmanuel Macron a jugé très nécessaire pour assurer la survie du système de retraite. Étant donné leur mécontentement, des millions de manifestants ont défilé mardi, 31 janvier, dans toute la France. Suite à la forte mobilisation pour la 2e journée de manifestation contre le projet de réforme des retraites, le ministre français du Travail, Olivier Dussopt, a déclaré à la chaîne de télévision France 2 que l'augmentation de l'âge de retraite était nécessaire pour que le système reste équilibré. Ce qui n'est pas négociable, c'est le retour à l'équilibre. Si on ne va pas à 64 ans en 2030, on n'équilibre pas le système, a-t-il indiqué. En réaction à la grande mobilisation contre ce projet gouvernemental, le ministre français du Travail a ajouté « Cela doit nous amener à continuer à expliquer, à essayer de convaincre et à le faire avec humilité, car on parle d'un sujet qui est toujours compliqué, nous savons qu'il est difficile. » Il a noté que selon le ministère de l'Intérieur, 1,27 million de personnes étaient dans la rue en France mardi 31 janvier contre 1,12 million lors de la première journée de grève et de manifestation le 19 janvier. Après une mobilisation record contre la réforme des retraites mardi 31 janvier, les syndicats ont appelé à de nouvelles journées de manifestation. Deux dates ont été annoncées, le mardi 7 et samedi 11 février. Des grèves sont également programmées dans les jours à venir. Dans ce droit fil accusant le gouvernement de sous-estimer l'opposition des Français au projet de réforme des retraites, le secrétaire général d'extrême gauche de la Confédération générale du travail, CGT, Philippe Martinez, a appelé à la poursuite des grèves.
Nous revoilà donc sur nos plateaux. Donc, tout de suite, donc, la venue de nos invités. Pour commencer, monsieur André Chamy, notre sociologue et expert juridique. Bonjour, monsieur André Chamy. Ravi de nous avoir, encore un de nos experts de Presse TV, qui a la gentillesse de pouvoir participer à nos débats. Notre deuxième invité étant monsieur Xavier Dupré, économiste. Bonjour, monsieur Xavier Dupré.
Bonjour.
Toujours un plaisir de vous avoir également sur nos plateaux. Alors aujourd'hui, nous souhaitons discuter donc de la réforme des retraites, de la forte mobilisation, de la situation en France qui n'est pas nouvelle, parce que si je me rappelle bien, depuis des années déjà 80, on disait que la retraite en France allait être un problème sur du long terme. Monsieur Maître André Chamy, vous-même sociologue, que pensez-vous de la situation française? Et comme je l'ai indiqué, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce n'est pas des propos nouveaux ni une volonté nouvelle de faire cette réforme, puisque déjà dès les années 80, on indiquait que les retraités et la retraite dans ces années 2000 allaient être difficiles et compliquées?
Vous savez, s'il n'y avait que la question de la retraite, peut-être que le gouvernement aurait pu en quelque sorte circonscrire la révolte populaire, parce qu'on est dans une société qui est en situation de véritable révolte, c'est-à-dire elle en a assez de plein de décisions qui ont été prises à son encontre, aussi bien sur le plan des libertés, puisque pendant pratiquement 2 ans, les libertés ont été réduites, ne serait-ce que pour des questions sanitaires. Je ne parle même pas de la période antérieure où les libertés ont été également limité pour des raisons liées au risque terroriste. Vous rajoutez à cela cette nouvelle guerre qui se passe en Europe, en l'occurrence entre la Russie et l'Ukraine, La participation de la France, directe ou indirecte, à cette guerre-là, a conduit évidemment à des conséquences dramatiques sur le plan économique, c'est-à-dire il y a une explosion des prix à tout point de vue, que ce soit pour les matières premières, que ce soit pour les carburants, que ce soit pour l'électricité, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en situation d'inflation exceptionnelle qui n'a jamais été vécue auparavant, ne serait-ce que depuis un certain nombre de décennies, si j'ose dire. Et l'impact sur le budget des ménages, sur leur vie au quotidien, sur leur capacité de faire face à leurs besoins de première nécessité, eh bien, évidemment, les pousse à manifester cette colère contre le gouvernement et ses décisions, notamment par rapport à ce qui se passe. La retraite devient en quelque sorte, moi j'appelle ça le détonateur social, c'est-à-dire il y a un facteur qui va déclencher une colère, mais en réalité la colère est plus grande et plus profonde. Évidemment, quand vous faites supporter par la classe moyenne, voire la classe inférieure, les conséquences d'une loi qui est inégalitaire et qui a un caractère, difficile à supporter sur le plan économique et sur le plan de la santé des travailleurs, évidemment, vous avez cette espèce de mélange de facteurs qui va pousser les gens à un moment donné à aller plus loin. Et la crainte aujourd'hui des services de renseignement, que ces manifestations se transforment en un véritable mouvement populaire avec des actes que les forces de l'ordre ne pourraient pas contrecarrer, parce que évidemment quand vous mobilisez des millions de personnes, puisque les chiffres sont contradictoires, vous avez la police qui dit 1,3 million, mais vous avez des syndicats qui parlent de plus de 2 millions, ce n'est pas négligeable, même si vous prenez ça sur le plan du territoire français. Derrière, vous avez à un moment donné des limites de maintenir l'ordre public et de pouvoir en quelque sorte limiter les mouvements de ces manifestations. Et on parle déjà de mouvements, alors on les qualifie d'extrême droite ou de perturbateurs ou que sais-je, mais en réalité, ces identités deviennent impossibles, particulièrement à identifier, et pourraient faire en sorte que ces manifestations échappent au contrôle des forces de l'ordre et créer un chaos que le gouvernement ne saurait contenir.
Merci.
Et c'est ça aujourd'hui la situation que l'on craint et qui pourrait aboutir à des situations dramatiques, mais même si ça reste dans le domaine des suppositions.
Merci, Maître André Chamy. Alors, vous avez parlé notamment de l'inflation récente qui est extrêmement importante, mais cette inflation n'a pas débuté que récemment. Bon, récemment, ça a été un pic très important. Monsieur Xavier Dupré, vous-même économiste, la situation du français moyen ou même de l'européen moyen s'est détérioré avec le temps depuis ces 10 dernières années. On va dire que l'inflation ces derniers temps a empiré la situation, mais les choses se sont détériorées petit à petit depuis ces 10 dernières années. Est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par André Chamy comme quoi cette réforme de retraite n'est pas la seule raison pour laquelle il y a eu une telle mobilisation?
Bien, tout d'abord, je salue Maître Chamy, mais c'est vrai que j'abonde dans son sens. Il faut bien se rendre compte que globalement, lorsque nous sommes arrivés à la fin de l'année 2019, en fait, en termes de production de richesses en Europe, nous avions retrouvé le niveau antérieur à l'année 2008. Donc, globalement, en fait, on commençait, pour le dire très familièrement, nous avons eu de 2018 à 2019, fin 2019, une décennie perdue pour la croissance et le développement. Ça, c'est une première, c'est un premier élément. Alors, par la suite, il y a eu le Covid et aujourd'hui, il y a cette crise énergétique. Et c'est vrai que cette crise énergétique, à l'exception de quelques petits pays européens qui indexent les salaires, c'est notamment le cas de la Belgique, c'est une survivance des politiques économiques des Trente Glorieuses. Dans les autres pays, les salaires n'ont pas suivi l'évolution des prix, de telle sorte qu'on peut dire que le salaire réel aujourd'hui sort laminé. Et donc, sur la minute, cette vague inflationniste qui monsieur, est déjà derrière nous.
Je pose une question par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, vous avez dit que 2008-2019, en 2019, on revenait vers ce qu'on connaissait avant 2008. Mais eux, les salaires à cette époque-là n'ont pas changé non plus. Plus, à l'heure actuelle, l'inflation d'aujourd'hui, où le salaire n'a également pas énormément bougé. Je veux juste pour notre auditeur pour suivre un peu.
Alors, entre 2008 et 2019, on n'avait pas énormément d'inflation en Europe. C'est même le spectre, si vous voulez, de la politique macroéconomique, c'est même plutôt la déflation. Ce qui veut dire que globalement, le pouvoir d'achat n'a pas été terriblement mis sous pression, mais la part des salaires, elle, dans l'économie, a continué à reculer. Donc, oui, effectivement, la richesse que pouvaient s'approprier les salariés, elle a eu tendance à diminuer cette part de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure où c'est pire encore, l'inflation est venue ajouter un facteur de dégradation à très court terme et très rapide du pouvoir d'achat. Ça, je crois que ça, c'est vraiment une donnée qui est là depuis une dizaine d'années. On va de régression sociale en plan d'austérité en passant par de la dégradation soit du pouvoir d'achat direct des travailleurs, soit la qualité des services publics qu'ils financent via leurs impôts. Donc c'est aujourd'hui cette réforme des retraites en France, eh bien quelque part elle pourrait constituer, comme le signalait Maître Chamy, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que ça fait quand même longtemps que globalement les classes populaires en Europe occidentale, en Europe tout court d'ailleurs, il n'y a pas de différence avec l'Europe centrale, nous sommes aujourd'hui clairement avec un salariat et des classes populaires dont les moyens sociaux d'existence sont structurellement mis sous pression.
Non seulement mis sous pression, mais selon les aveux entendus sur les réseaux sociaux, mais dès le cinquième jour du mois, en gros, ils ont très peu de quoi vivre. C'est-à-dire, on ne parle pas pouvoir partir en voyage, on ne parle pas des choses qui ne sont pas nécessaires à la vie. On parle des choses nécessaires dès le cinquième jour ou dixième jour du mois pour la plupart de la classe moyenne ou en dessous de la classe moyenne, de la classe ouvrière, comme vous l'avez dit. Ils se trouvent en situation déjà de difficulté.
C'est plutôt la classe, ce que vous racontez ici existe, hein, je ne vous racontez pas, vous décrivez quelque chose, qui est plutôt le vécu des classes très populaires, classes ouvrières, et surtout des jeunes ménages plutôt précaires. Il reste encore une classe moyenne en Europe, mais c'est vrai qu'elle-même commence à sentir le poids de cette crise. Ça, c'est évident. Alors là, dans ces ménages-là, c'est plutôt des arbitrages de type aller en vacances, pas aller en vacances, mais c'est très nouveau, donc c'est vécu comme un traumatisme. Alors dans le cas français, c'est vrai que reporter l'âge de la retraite de 4 ans, ben c'est aussi quelque chose qu'il faut apprécier, l'histoire sociale de la France, pour le comprendre. La retraite à 60 ans, qui avait été décidée par François Mitterrand et l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, est un acquis social tout à fait important et exemplaire en Europe, qui a libéré du temps libre en bonne santé pour toute une série de gens qui avaient déjà quelques décennies d'engagement sur le monde du travail. Et donc là, on sent bien que cette résistance, si vous voulez, en réformant de cette manière, de manière aussi brutale et unilatérale les retraites, le gouvernement Macron, quelque part, approfondit une tendance à l'austérité qui est présente et très présente depuis une quinzaine d'années en Europe, mais il a également touché un symbole sociopolitique de conquête sociale pour les milieux populaires et pour l'ensemble des forces représentant les salariés, des syndicats représentant les salariés, de telle sorte qu'il a sans doute ouvert une boîte de Pandore sur le plan politique. J'ajoute également comme facteur de délégitimation de cette mesure le simple fait que le mouvement politique se réclamant de la non-idéologie qu'est le macronisme, de cet extrême centre qu'est le macronisme, ne dispose plus aujourd'hui d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, quelque part, cette politique ne représente même plus les vœux d'une majorité de Français. Donc, dans ces conditions, effectivement, on peut supposer que une partie, en tout cas l'appareil d'État, va se heurter à une résistance sociale assez farouche et organisée. Il ne faut jamais oublier que lorsque vous avez des mouvements spontanés type Gilets jaunes, type mouvement étudiant, vous avez affaire à des forces qui sont globalement peu structurées. Lorsque vous avez l'ensemble des syndicats, la gauche, le syndicat de gauche, la CGT, mais aussi le syndicat réformiste, la CFDT en face de vous, vous avez des organisations très structurées et qui, quelque part, quadrillent tout le territoire. Donc la question même peut-être aujourd'hui d'une alternative politique, du simple fait de ces mobilisations via les organes représentatifs des salariés, la question d'une alternative politique à Emmanuel Macron peut sans doute déjà commencer à se poser.
Merci, monsieur. Alors, on va revenir sur le dernier point que vous venez de mentionner. L'une des choses que j'ai envie aussi de vous poser, c'est que dans les chaînes françaises, ceux qui sont opposés au projet de réforme disent que c'est inutile, qu'il ne faut pas s'en prendre à la retraite parce que, d'un point de vue économique, il n'y en a pas besoin, notamment parce que beaucoup de retraités, beaucoup de personnes ne touchent pas leur retraite parce qu'ils meurent avant. Et que finalement, il y a aussi le fait que beaucoup de l'effet baby-boom qui s'est passé à l'époque d'il y a 40 ans, en fait, va disparaître petit à petit. Il y a moins de naissances, donc moins de personnes qui vont dans le secteur du travail. Est-ce que ça, vous, en tant qu'économiste, vous êtes d'accord avec ces propos? Est-ce que cette réforme, elle ne s'en prend pas finalement à quelque chose d'inutile?
Alors, je crois que cette réforme, elle a un but.
Le problème, en vrai,
Je posais la question à M. Xavier Dupré, monsieur, et après je reviens vers vous, M. André Chamy, je vous en prie, M. Xavier Dupré.
M'excuser.
Non, c'est moi.
C'est moi qui suis désolé. Mais en fait, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez la situation des retraites en France, vous la voyez, on peut l'identifier comme une dépense. C'est vrai, mais vous devez aussi regarder, comme dans toute comptabilité publique, où se trouvent les recettes. Or, on s'aperçoit que la politique économique d'Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu, est une politique de cadeaux aux ménages les plus fortunés, suppression de l'impôt sur la fortune, et vous avez aussi des crédits aux entreprises, des crédits d'impôt aux entreprises, qui ont été maquillés en crédits, en subsides à la production, et en soutien à l'emploi, mais qui en réalité aujourd'hui ont très peu profité à l'emploi, n'ont pas vraiment déployé une grosse activité de création d'emplois et n'ont pas déployé une production matérielle supplémentaire dans l'économie française. Donc presque une économie qui se désindustrialise profondément. Et donc si on met bout à bout ces cadeaux fiscaux, ces cadeaux aux entreprises, on a déjà de quoi voir venir sur les retraites au cours des 5-6 prochaines années, peut-être même la prochaine décennie, sans grande difficulté. Alors il faut également signaler que on peut mesurer le coût des retraites parce que voilà, ça coûte par rapport à un certain... Ça représente une masse importante des cotisations, mais il faut aussi se rendre compte que le vieillissement de la population, en fait, il se traduit par une augmentation des dépenses de retraite et une augmentation des dépenses de soins de santé. Mais il va se doubler aussi, puisque c'est un vieillissement d'une population.
Nous avons perdu M. Xavier Dupré. On va enchaîner sur la prochaine.
Ça se double aussi.
Il le revoit. Je vous en prie.
Oui, c'est ça. C'est sur une génération. Vous devez envisager les choses comme ça. Et vous devez aussi vous rendre compte que sur la prochaine génération, eh bien, il y aura moins de dépenses en termes de soutien aux familles et de soutien à l'enfance, à la petite enfance. Tout ça débloque des moyens. Et aussi, et là j'insiste, c'est que nous sommes à l'aube d'une révolution de l'intelligence artificielle qui risque de faire redécoller une génération, eh bien, les gains de productivité. Donc là, en fait, globalement, le système des retraites est finançable.
Merci.
Il est finançable.
Merci,
mais ce qui est en jeu, et je me permets d'ajouter ceci, que si on veut continuer à faire pression à la baisse sur les salaires, il faut pouvoir développer l'offre de travail le plus longtemps possible pour que ceux qui sont en place ne soient pas trop revendicatifs. D'où l'intérêt de maintenir un grand nombre de personnes sur le marché du travail bien au-delà des 65 ans. Parce que l'objectif d'une partie du patronat français, c'est finalement d'aligner la France sur les exigences du patronat allemand qui est de maintenir les gens jusqu'à 67 ans au travail.
Merci, monsieur Dupré.
Excusez-moi, j'ai été un peu long.
Non, il n'y a pas de problème. On va revenir vers notre deuxième invité, monsieur André Chamy, sur l'un des points que monsieur Xavier Dupré vous avait indiqué concernant notamment la situation macronique au sein du Parlement, mais également le fait qu'il est possible ou non, et sur rumeur, monsieur André Chamy, que monsieur Macron devrait peut-être démissionner. On va pousser peut-être monsieur Macron à démissionner. C'est la rumeur depuis la fin de l'année 2022 où certains analystes ont dit qu'il est possible ou serait possible ou probable que Macron devrait démissionner. Avec ce qui se passe, avec cette mobilisation, est-ce que vous pensez la chose possible, monsieur André Chamy?
La première question qui va se poser par rapport à la vraie fausse majorité actuelle, est-ce qu'elle va pouvoir se maintenir et, ou bien pour qu'il Macron puisse faire avancer ses projets, est-ce qu'il va passer par une dissolution parce que il peut être séduit par l'idée d'obtenir une véritable majorité qui lui permettrait de faire passer toutes les lois qu'il voudrait passer et qui sont évidemment pas très populaires. Et aujourd'hui, il s'est mis, si j'ose dire, tout le monde à dos parce que même la droite qui était prête jusqu'à présent à se rapprocher de lui par rapport à cette loi retraite, eh ben, les déclarations de M. Ciotti, qui est le patron de la droite française, eh ben, ne vont pas dans ce sens-là. Il estime que les déclarations du Premier ministre hier n'étaient pas satisfaisantes et par conséquent, vraisemblablement, contrairement à ce qui a été dit ou allégué à un moment donné, la LR ne suivrait pas vraisemblablement la Macronie dans cette voie-là. Est-ce qu'à ce moment-là, la Macronie va aboutir à une dissolution et si la dissolution devait se faire, quelle majorité on va avoir? Et c'est là le problème. C'est-à-dire, si Macron n'arrive pas à obtenir une majorité qui lui fait passer sa loi ou ses lois, est-ce qu'à ce moment-là, ça va l'inciter à démissionner? Moi, je ne le pense pas parce que nous avons l'expérience de Chirac par le passé, nous avons l'expérience de Mitterrand par le passé, c'est-à-dire qui ont gouverné avec des majorités qui n'étaient pas les leurs. Par conséquent, on a appelé ça ou on a inventé le terme de cohabitation, c'est-à-dire un président d'un mouvement et puis en face une majorité parlementaire d'une autre mouvance. Évidemment, c'est toujours faisable selon la 5e République. Mais par contre, c'est le pays qui deviendrait ingérable. Et les questions fondamentales, économiquement nécessaires au pays, ne pourraient pas prospérer, en tout cas dans les conditions apaisées.
Mais la première
ministre...
Et
c'est là, à mon sens, que la France systémique traverse une crise politique, mais une crise économique, parce qu'il y a une sorte de fissure entre, pour ne pas dire de déchirure, entre nos gouvernants et la population. La population est en situation de défiance, ça c'est incontestable, par rapport à toutes les forces politiques. Et c'est la raison pour laquelle vous avez cette espèce de morcellement dans la classe politique, c'est-à-dire on n'a pas de véritable majorité, quel que soit le mouvement, que l'on soit dans l'extrême droite ou l'extrême gauche, à tel point qu'à un moment donné, il a été dit pourquoi l'extrême gauche et l'extrême droite, en tout cas ce qui s'appelle, selon la carte politique française, l'extrême gauche et l'extrême droite, pourquoi ils ne travaillent pas ensemble comme cela s'est passé par exemple en Italie. La question continue de se poser parce que quand on prend par exemple le programme du Rassemblement national et des Insoumis, ils sont compatibles à plus de 75%. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une révolution culturelle pour inciter les uns à travailler avec les autres, comme cela s'est passé en Italie? Ce n'est pas exclu, malgré quelques réticences des uns et des autres. Et malgré aussi la main tendue, vraisemblablement, du Rassemblement national, qui ne voit pas d'un mauvais œil, si j'ose dire, un rapprochement avec les Insoumis, malgré les mots durs que chacun peut lancer à l'endroit de l'autre. Nous sommes donc dans une phase de mutation politique, en plus de la mutation économique qui est incontestable, parce qu'il y a un paradigme économique qui est en train de changer. Ce qui était considéré comme le système social à la française, c'est-à-dire la santé à la française, l'éducation à la française et bien entendu les outils républicains à la française, notamment l'armée et la police, et derrière ça la retraite et la sécurité sociale à la française, qui sont tous en quelque sorte l'émanation du Conseil national de la Révolution, eh ben, tout est en train de péricliter et ça pose une difficulté majeure pour la population qui s'est habituée à ce système. Puis aujourd'hui, elle voit en quelque sorte un rêve se détruire, pour ne pas dire s'effondrer et peut-être même mourir de sa propre mort. Et on ne peut pas s'empêcher d'être nostalgique par rapport à cette époque-là. Et on aura du mal, évidemment, à s'en remettre si jamais ce système devait péricliter, comme cela s'annonce à travers les projets, des gouvernements successifs, de gauche comme de droite. Aujourd'hui, Macron ne fait qu'achever, en quelque sorte, ou en tout cas donner le coup de grâce sur le système social, parce qu'il détache le système de retraite, par exemple, de l'idée que l'on se faisait de ce qu'on appelle la solidarité nationale. Aujourd'hui, quand on dit que des gens vont travailler plus longtemps, ce n'est pas l'idée de travailler plus longtemps, mais en réalité, ils vont travailler moins longtemps, c'est ça la réalité, parce qu'au-delà d'un certain âge, les entreprises ne les sollicitent plus, les excluent même du système économique, puisqu'ils sont licenciés bien avant et ils ont du mal à retrouver du travail, c'est-à-dire ils vont perdre 4 ou 5 ans de leur vie et de leur cotisation sans pouvoir bénéficier de la solidarité nationale.
Merci Maître André Chamy, merci pour votre expertise. Ça va être la conclusion donc, de notre débat, vous l'aurez compris. Merci Monsieur Xavier Dupré également pour votre participation qui nous a permis d'avoir la vision économiste de la situation. Moi ici, c'est ici que je vous dis au revoir, que je vous remercie, vous auditeurs, de nous écouter. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et notre site internet. À très bientôt pour un nouveau sujet du débat, ici, à partir des studios de Presse TV. Au revoir.
Afrique économique. Sud mondial. Des monnaies adossées à l'or pour remplacer le dollar américain. Deuxième partie. L'adoption par le Sud mondial de monnaies adossées à des produits de base pourrait mettre fin à la domination du dollar américain et uniformiser les règles du jeu dans le commerce international. Les grandes industries à forte intensité énergétique vont se déplacer en Chine. Pékin est devenu un gros exportateur de gaz naturel liquéfié russe vers l'Europe, tandis que l'Inde est devenue un gros exportateur de pétrole russe et de produits raffinés tels que le diesel, également vers l'Europe. La Chine et l'Inde, membres des BRICS, achètent au-dessous du prix du marché à la Russie, également membre des BRICS, et revendent à l'Europe en réalisant de gros bénéfices. Des sanctions? Quelles sanctions? La course pour constituer le nouveau panier de devises d'une nouvelle unité monétaire est lancée. Ce dialogue à distance entre la direction du ministre de la macroéconomie de la Commission économique eurasienne, Sergei Glazyev, et le stratège du Crédit Suisse, Zoltan Bodzar, anciennement membre du FMI, du département du Trésor américain et de la Réserve fédérale de New York, va devenir encore plus fascinant, car Glazyev va tenter de trouver une solution à ce que Bodzar a déclaré. L'exploitation des ressources naturelles pour la création de la nouvelle monnaie pourrait être inflationniste si la masse monétaire augmente trop rapidement. Tout cela se passe alors que l'Ukraine, un énorme gouffre, un carrefour critique de la nouvelle route de la soie qui sépare l'Europe de la Russie et de la Chine, disparaît lentement mais sûrement dans un vide noir. L'Empire a peut-être englouti l'Europe pour l'instant. Mais ce qui compte vraiment sur le plan géoéconomique, c'est la façon dont la majorité absolue du Sud mondial décide de s'engager dans le bloc dirigé par la Russie et la Chine. La domination économique des BRICS+ n'est peut-être plus que dans ces temps, quelles que soient les toxicités concoctées par ce grand état voyou nucléaire dysfonctionnel de l'autre côté de l'Atlantique. La dédollarisation sera sans doute l'une des pierres angulaires de nombreux pays non occidentaux en 2023. À titre d'exemple, la Russie et l'Iran. Ils connectent leur système de paiement financier pour éviter l'influence des États-Unis. L'accord entre les banques centrales de Russie et d'Iran, signé dimanche 29 janvier 2023, marque un premier pas bilatéral pour ce qui deviendra une tendance croissante de contournement du réseau bancaire contrôlé par les États-Unis, SWIFT. Les branches iraniennes des 52 banques iraniennes utilisant actuellement le système télécom local iranien CIPAM seront connectées aux 106 banques utilisant le système russe pour le transfert de messages financiers ou SPFS. L'avantage de ces deux systèmes bancaires interconnectés est qu'ils ne peuvent pas être sanctionnés et que leur infrastructure n'est contrôlée par aucun intérêt gouvernemental occidental. Une fois pleinement mise en œuvre, cela devrait faciliter les interactions entre les banques russes et iraniennes. Il est également probable que, avec le temps, cela dilue l'attractivité du réseau de paiement SWIFT mondial, où les transactions sont générées par des banques correspondantes américaines, facturant des frais et dont les mécanismes peuvent être coupés sur hors des États-Unis ou de l'Europe. SWIFT ne mourra probablement pas, mais la solution russo-iranienne signifie qu'il y aura de plus en plus de mécanismes bilatéraux tels que le LOR, bien que les États-Unis puissent essayer d'imposer des sanctions aux banques n'utilisant pas exclusivement le réseau SWIFT. Si c'était le cas, SWIFT s'effondrerait et la réputation des États-Unis pour un jeu financier équitable serait irrémédiablement endommagée. En Amérique latine, le président vénézuélien Nicolas Maduro a officiellement annoncé son soutien à la proposition du président brésilien Lula da Silva et le président argentin Alberto Fernandez de créer une monnaie commune pour l'Amérique latine, étant tous préoccupés par l'ingérence américaine dans leurs affaires intérieures et notamment les pressions de la part de Washington pour faire avancer ses positions dans cette région. L'Afrique, quant à elle, examine les moyens de construire un taux de change rouble-devise africaine fiable pour éviter l'utilisation du dollar américain ou de l'euro. Les deux parties russes et africaines préparent actuellement des documents pour réorganiser leur coopération malgré les sanctions occidentales. Le but est de réduire progressivement l'utilisation du dollar américain et de l'euro dans les transactions commerciales entre la Russie et les pays africains. L'opération économique, politique et militaire entre la Russie et l'Afrique a augmenté ces dernières années. La Russie a signé plus de 20 accords bilatéraux avec des pays africains et a augmenté son volume commercial avec le continent. Il y a également des engagements concernant l'agriculture avec la Russie qui est intervenue au plus fort du blocus ukrainien l'année dernière pour insister sur la dispersion des livraisons de céréales aux nations africaines et moins riches qui en ont besoin plutôt qu'au bloc de l'Union européenne plus riche. En septembre de l'année dernière, le président russe a révélé que les 87 navires contenant des céréales ukrainiennes, seuls deux avaient été envoyés à des pays en développement, Éthiopie et Yémen. Le reste est allé à l'Union européenne. Depuis, la Russie a doublé ses efforts pour soutenir l'Afrique, tant dans l'alimentation que dans l'énergie, alors que l'Union européenne a augmenté les prix, acheter du pétrole, du GNL et des céréales à l'origine destinées à d'autres marchés et mis de nombreux pays en risque d'énergie. Parmi de nombreux pays africains en risque d'énergie, l'Afrique du Sud, par exemple, subit actuellement des coupures d'électricité de 12 heures par jour, un problème qui est directement provoqué par l'Union européenne. C'est également un moteur important pour encourager les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie en utilisant des roubles ou d'autres devises plutôt que le dollar américain ou l'euro, car les sanctions signifient qu'il n'y a pas de mécanisme pour payer la Russie en utilisant ces devises. L'Afrique se considère donc comme une victime des politiques européennes envers la Russie, sans recevoir d'aide coordonnée de l'Union européenne pour atténuer les conséquences indirectes. Parmi les devises africaines, le rand et la livre égyptienne pourraient avoir une part importante des échanges commerciaux à venir avec le rouble, car elles sont également librement convertibles dans toute l'Afrique. D'autres pays africains ont lié leurs devises au dollar américain ou à l'euro, notamment le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, l'Éthiopie et les États de l'Afrique de l'Ouest centrale, Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo. On a aussi la zone franc CFA de 6 pays, qui comprend le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ces pays ont leurs devises respectivement liées à l'euro et au FCFA. Ces deux devises sont garanties par le Trésor français, étaient liées au franc français avant l'euro. Bien que ces devises soient théoriquement des moyens de paiement juridiquement séparés, elles ont été efficacement interchangeables. Le franc CFA est fixé à 655,957 pour 1 euro. Ces mécanismes existants donnent donc une marge de manœuvre à la Russie pour examiner les moyens de construire un taux de change rouble-devise africaine viable et fiable. Une exigence pour la stabilité commerciale et financière lorsque l'utilisation du dollar américain ou de l'euro est évitée. Il y a d'autres développements de blocs commerciaux qui lieront un certain nombre de pays africains plus étroitement au commerce et aux investissements russes. L'Algérie, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal ont tous fait des représentations officielles pour rejoindre le groupe des BRICS. L'Afrique du Sud en est déjà membre.
Thank you.